Je m'appelle Stéphane Guy, j'opère avec Édith Bonneau, le site Érable et Chalumeau, et puis vous écoutez les podcasts agricoles du Québec.
Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses horticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fêtes, puis les menteurs, on se lève de bonne humeur, puis on compte pas nos heures.
Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne.
Hey, salut tout le monde, ici Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. J'espère que vous allez bien. Hey, c'est sûr que je voulais, comme à tous les épisodes, je voulais vous parler de Patreon. Ben oui, patreon.com/podcast agricole au pluriel, 4 $ par mois pour écouter des podcasts en exclusivité, exclusive sur la formule payante. Et aussi, ça encourage aussi une production de podcasts complètement indépendante. Et pour ceux qui l'écoutent via Spotify, Apple et toutes les autres plateformes, la plupart, vous pouvez aller mettre une note, bien, profitez-en, puis aller mettre une belle note de 5 étoiles, fait que ça va permettre au podcast d'être plus facilement recherché dans les moteurs de recherche. Hey, cette semaine, je suis avec quelqu'un que vous avez certainement déjà vu à télévision. J'étais avec Stéphane Guay, le biologiste qu'on voyait souvent dans Un chef à la cabane. Et puis aujourd'hui, bon, ben, il opère Érable et Chalumeau. Salut Stéphane!
Salut, comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Attends, écoute, quand le printemps arrive, ça peut pas aller mal.
Oui, c'est vrai, on est pas mal. Là, on est aujourd'hui au mois de février, début février. Le temps des sucres s'en vient, comme chaque année, c'est pas une nouvelle. Fait que, là, ça va être ta grosse période. C'est ma plus grosse période de l'année pour moi aussi. Là, on a 17 000 en taille de notre bord. Fait que c'est pas les battages, pas les semis, c'est vraiment le rendu le temps des sucres, là, ma principale saison à cette heure. Écoute, Stéphane, moi, dans les podcasts, ce que j'aime, c'est de faire découvrir les personnalités du monde agricole. Cette semaine, c'est à ton tour. Donc, on va découvrir Stéphane, Stéphane Guay, le biologiste, puis le spécialiste un peu des érables au Québec. Et puis, ce que j'aime, dans le fond, c'est de te faire, on va faire découvrir qui est Stéphane, les études. Est-ce que tu es venu au monde dans l'érablière ou ben non, tu es tombé là-dedans par hasard? On va tout découvrir ça.
Excellent.
Good. Fait que, Stéphane, tu viens de quel coin? Tu es natif de quel coin, dans le fond?
En fait, moi, je viens de Sainte-Brigitte-de-Laval. C'est au nord de Québec, de la ville de Québec.
OK, ça, c'est pas loin. C'est, voyons, la grosse cathédrale, là, c'est un peu dans ce coin-là?
C'est plus au nord encore. En fait, si vous connaissez le lac Beauport, c'est un petit peu plus au nord que le lac Beauport.
OK.
C'est un secteur où il y a quand même beaucoup d'érables. Moi, je suis né, à l'époque, c'était un tout petit village très forestier. Puis, j'ai été entouré d'érables toute ma jeunesse. Mais, à l'époque, comme il y avait énormément de neige, il n'y avait presque personne qui faisait des sucres à Sainte-Brigitte-de-Laval.
Ah oui?
Parce que quand il y a 2-3 mètres de neige à chaque année, tu ne fais pas les sucres à Chaudière.
Non, c'est pas trop plaisant pour les ramasseurs, puis surtout pour les chevaux qui ramassent à l'eau, là.
C'est ça. Moi, j'ai appris à apprivoiser la forêt à ce moment-là, mais pour la sériculture, je connaissais ça, pas du tout ça.
OK. Fait que t'es pas venu au monde sur une ferme, dans le fond.
Non, pas du tout. Pas du tout. En milieu forestier, plus pour s'y amuser, la pêche, la chasse, ces choses-là.
OK. Puis après ça, t'es arrivé aux études. Bon, t'as fait ton secondaire. Puis là, quand t'es rendu à l'université, parce que biologiste, là, c'est pas un cours de cégep, là, on s'entend. C'est plus un cours universitaire.
Oui. C'est ça. Ouais. J'ai fait mon cours à l'Université Laval.
OK.
Et puis, J'ai commencé à connaître l'érable via un professeur qui s'appelle Serge Payette, qui, lui, travaillait dans une érablière, l'érablière de Tantaré, qui était une érablière vierge. Puis j'avais travaillé sur la croissance des érables. J'avais commencé à regarder ça un peu plus en détail à ce moment-là. Et puis, j'avais un intérêt, mais vraiment très marqué pour cet arbre-là. Tu sais, ça, c'était clair que j'aimais l'étudier, on va dire ça de même. Puis, c'est pas l'université comme telle que j'ai pris le goût à la sériculture. L'écologie de l'érable, oui, mais pas dans le contexte de la sériculture, vraiment dans le contexte des conditions de croissance. Mais la sériculture, c'est un peu un hasard, on va le dire. Moi, j'ai rencontré mon épouse Edith Bonneau à l'université. Puis un jour, Edith, elle a eu envie d'avoir un élevage de chèvres.
OK.
Puis là, on s'est acheté notre première ferme. Cette ferme-là était à Framdune, et puis dans la Beauce. Et on a rénové les bâtiments pour accueillir des chèvres, tout ça. On a monté une chèvrerie. Et puis, sur cette terre-là, il y avait une petite érablière de 1500 entailles qu'on faisait à la chaudière. Et puis, ça a été la piqûre instantanée. Travailler tous les jours pour le lait, tout ça, on a trouvé ça extrêmement exigeant. T'sais, pour des gens qui n'ont pas été élevés sur une ferme, ça peut être quelque chose qu'on trouve très prenant. Nous, on a trouvé ça très prenant là, de dire que samedi, dimanche, tu ne peux jamais aller nulle part à 100% parce qu'il faut que tu reviennes pour traire les chèvres. Mais la portion en séricole, ça a toujours resté. Là, on n'a jamais été capable de se départir de notre piqûre puis le goût de faire des sucres.
C'est ça, mais c'est pas 365 jours par année comme les chèvres.
Non, mais aussi, tu peux avoir des fins de semaine beaucoup de fois dans l'année.
Ouais, c'est ça, c'est pas pareil, c'est pas le même mood, là.
Non, c'est ça. Puis tu vois, nous autres, naïvement, à l'époque, hein, on a enlevé la tubulure dans l'érablière pour mettre des chaudières.
Ah,
Ça
ouais.
montre un peu comment on avait imaginé un peu. Il aurait fallu changer la tubulure, elle était trop endommagée. Puis on a plutôt choisi de s'acheter des chaudières puis de faire ça à chaudière à l'époque.
Ouais.
Donc,
Puis on parle d'un quelles années à peu près?
écoute, on doit être plutôt en 80, on doit être en 93, là, en 1993-94.
Ouais, c'est sûr qu'à ce moment-là, la tublure, c'est pas celle d'aujourd'hui, là. Fait que la tublure église, puis les pompes qui n'étaient pas trop performantes, tu sais, puis on part de loin
Non.
quand même, là.
Oui, on part de loin, mais quand même, à ce moment-là, c'est ça qu'on avait le goût,
OK.
là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est de là qui est venu le goût. Mais ce qui est le plus drôle dans tout ça, c'est que moi, comme biologiste, puis qui avait beaucoup lu sur l'érable à sucre, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'informations sur la sériculture. Parce que oui, il y avait de l'information à l'époque, comment percer un trou, tout ça, mais pas sur l'arbre lui-même.
OK.
Je m'étais énormément intéressé à l'érable, puis à comprendre le mécanisme de coulée, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'écoutais la radio, j'étais dans la Beauce, puis là, il y avait une annonce, ça disait que le syndicat des producteurs de bois de la Beauce voulait faire un guide d'aménagement des érablières. J'appelle tout de suite, je dis, écoute, je dis, moi, je peux vous faire ça. Mais c'est de même que j'ai commencé vraiment là, à la vulgarisation en acériculture, c'est avec la rédaction de ce premier petit guide d'aménagement de l'érablière. On parlait d'entaillage là-dedans. J'avais été fréquenté Gaston Allard du Centre à serre à l'époque pour regarder les blessures d'entaille. Ça se parlait déjà. J'étais très préoccupé par les blessures d'entaille, puis la survie de l'érable. Tu sais, c'est vraiment ça, là, moi, qui m'intéressait le plus. Donc, j'avais approfondi ça quand même pas mal, là. Puis, suite à ça, vu que j'avais beaucoup côtoyé les gens du centre à serre, ben, ça m'a amené à aller travailler au centre à serre.
À
Donc,
Saint-Barth.
j'ai.
Ben, à côté de
Ben,
Victo, je pense. Là.
ben, à l'époque, il y avait un bureau à Québec. Moi,
Ah, OK.
je partais de la Beauce à tous les jours pour aller travailler à Québec. Ah, écoute, l'horaire, ça avait comme pas de bon sens. Je me levais le matin, j'allais traire les chèvres. Après ça, je partais, j'allais travailler. Puis, quand je dis je partais travailler, je partais pour Québec à 7 heures. Je revenais vers 6 heures, c'était la deuxième traite. Puis là, après ça, ma journée finissait. C'était quand même assez intense, on va dire, comme période. Mais moi, j'ai trouvé ça extrêmement fascinant là, d'avoir la chance d'approfondir l'érable. Écoute, en 98, il y a eu le verglas. Moi, je suis rentré au centre serre un peu au travers du verglas, les analyses de données de croissance des arbres, les projets. C'était vraiment, vraiment intéressant. Puis beaucoup d'autopsies d'érables que j'ai faites. Donc, ça m'a permis de comprendre encore mieux les blessures d'entaillage. Tu vois, j'ai vraiment là, j'ai passé quand même un 5 ans au centre serre. Puis après ça, j'ai poursuivi plutôt au niveau des équipements.
OK. Parce que ça, c'est en janvier 98, le verglas. Je me souviens qu'il y avait
Ouais.
des têtes d'arbres. Tu sais, il y avait des érablières
Ah.
qui étaient carrément, là, pas scrap, là, mais quasiment, là. Pas
Ouais,
entaillable
ouais,
cette
ouais,
année-là, ça,
ouais.
c'est sûr, là.
Oui. Puis, tu sais, le verglas, ça nous a permis, nous autres, tu sais, comme personne, tu sais, je me rappelle beaucoup les discussions qu'on avait avec Gaston Allard. Puis, à un moment donné, on analyse les résultats. Puis là, ben, ce qu'on avait, nous autres, c'est la production du monde avant le verglas, puis après le verglas. Puis là, tout le monde produisait plus après le verglas parce qu'ils ont changé de tublure. Tu sais, à l'époque, la tublure était. Le monde n'avait pas fait les mises à jour de tublure. Tu sais, la plupart avaient des raccords qui fuient puis des affaires qui
Oh
fuient. Puis là, tout d'un coup, ils se ramassaient avec une tublure neuve. Ça veut dire, même avec des arbres complètement dépouillés, okay, des arbres complètement dépouillés, ils produisaient plus avec une nouvelle tublure qu'avant avec toute la tête de l'arbre. C'est pour montrer à quel point la tublure, c'est quelque chose d'absolument important pour la récolte. C'est vraiment, des fois, on va dire que la différence entre la chaudière et la tublure, avant, on disait c'est 2 fois plus, mais c'est bien plus que ça. Parce que là, nous autres, quand on a compris ça, on s'est mis à travailler l'étanchéité. Puis, écoute, il y a 20 ans, on ne faisait jamais en bas de 5 livres à l'entaille quand on rentrait dans une érablière pour faire un projet.
Nous
Là,
autres,
on dit il y a 20 ans, là.
mon père, quand il a acheté en 2001, s'il pognait 3 livres à l'entaille, il était fou comme la marde.
Oui, c'est ça, exactement. Mais tu vois, nous autres, on faisait jamais en bas de 5. Là. À Mont-Laurier, on faisait 5.
OK.
Oui, puis sans, ça a pas de bleu. Puis à l'époque, nous autres, le secret, dans le fond, moi, je l'ai compris là, le secret, c'est quoi? C'est que même si on avait des chalumeaux à l'époque qui n'étaient pas spécialement étanches, là, on va le dire, mais on passait tous les jours faire les fuites. On tolérait aucune bulle dans le tublure.
OK, aucune bulle. Aucune bulle qui voyage vite, mettons, là.
Ah non, aucune bulle. Je t'ai bien dit, aucune bulle.
OK, faut que ton tuyau soit
Et depuis
juste de l'eau.
depuis ce temps-là, je ne tolère aucune bulle dans mes tublures.
Ah, ouais.
Ouais.
Ben, conique. Parce que moi, des fois, OK, tu vois,
Puis
l'eau, elle
si tu as
voyage
des
pas, il n'y a
bulles,
rien qui bouge.
si tu as des bulles, tu as des fuites.
OK.
Ben, fait que là, tu ne te poses pas de questions. Tu as des bulles, tu as des fuites.
Ah, OK. Moi, je regarde
Il n'y a
plus
pas
la
de.
vitesse là, quand ça voyage pas partout. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas de fuite.
Oui, bien, il n'y a rien qui bouge vite. C'est ça qu'on peut dire. Hein? Pas assez pour. Mais à chaque fois que tu vas avoir des bulles dans tes chutes, hein, c'est clair que ça provient d'une fuite de ton chalumeau.
Ah, peut-être.
Puis là, ben là, chaque fuite au chalumeau, ben, faire rentrer de l'air, faire rentrer des pathogènes dans l'entaille. Hein, parce que nos entailles se contaminent beaucoup par les fuites. Fait qu'on avait quand même compris que ça faisait sécher les entailles plus vite. Puis
Ouais,
qu'à chaque fois qu'on réussissait à pas avoir de bulles, ben, ça coulait vraiment plus. En tout cas, j'ai appris beaucoup, j'ai appris énormément. Ça a été un moment où on a eu beaucoup de fun. Les techniciens étaient extrêmement compétents, là. C'était vraiment agréable, là.
OK. Ah, parce que, monsieur, c'est ça, 98, non, on n'avait pas encore l'érablière à ce moment-là. Mais d'autres, chez nous, on était comme. On était à Nicolette dans ce coin-là. On avait eu du verglas, mais on n'a pas eu les dommages qu'il y avait eu, mettons, plus vers Drummondville puis en montant
Ah
vers
oui.
Saint-Hyacinthe, là.
Ah, écoute, oui. La Montérégie a été touchée, mais de plein fouet.
Et si bonac, maison, maison. Là, c'était en 98, donc là, tu étais au centre Acer encore à ce moment-là. Puis...
Non, mais moi, je suis rentré dans ces années-là.
Dans ces années-là.
Je suis rentré tout de suite après le verglas. Là. Tu sais, un an ou deux après le verglas, là, je ne me souviens plus la chronologie précise, là, mais ouais, c'est ça. On était pas mal dans ces périodes-là.
OK. Puis là, tu as eu ton diplôme, là, ça fait longtemps que tu avais ton diplôme de biologiste.
Ah oui. Non, moi, j'étais un étudiant en biologie qui s'était intéressé beaucoup aux mathématiques, en fait.
OK.
Étonnamment, ma spécialité, là, si j'avais à dire j'ai une spécialité, c'était plus les biostatistiques, la biométrie. Vraiment, moi, les maths, la modélisation, c'est ça que j'ai fait en gros, là. J'ai fait beaucoup de modélisation, là. Puis, quand j'ai terminé mon bac, en fait, j'ai eu à développer un modèle mathématique pour qualifier l'habitat du lièvre d'Amérique. C'est le premier contrat que j'ai fait dans ma vie, là.
OK.
Développer un modèle mathématique pour qualifier un habitat. Donc, tu vois, comment ça m'orientait déjà vers... c'est pour ça que tout au long de ma carrière de biologiste, j'ai souvent travaillé en modélisation. Moi, j'essaye de ramener tout ce qu'on trouve à un modèle mathématique. C'est le même, tu sais, si tu as vu l'entaillage à trois niveaux.
Ben, c'est ça, je m'en allais te poser comme question, là.
Ouais, bon, mais c'est parce que moi, tout aboutit par des chiffres. Fait que là, moi, ici, là, moi, une saison des sucres, là, c'est plein de chiffriers Excel. Fait que là, je vais avoir un chiffrier Excel qui va suivre le suivi de vide, la différence entre le vide en tête de ligne versus en tête de chalumeau. Après ça, les pressions dans l'arbre. Après ça, moi, là, c'est tout est mathématique ici. C'est ça. Fait que c'est moi ça. Je suis quelqu'un qui aime vraiment, vraiment tout ramener dans des modèles.
OK. Là, après ça, bon, tu étais au centre Acer. Au centre Acer, qu'est-ce que tu as fait comme travail? Parce que le centre Acer, dans le fond, on va expliquer un peu c'est quoi. Là. C'est un peu un centre de recherche au niveau de la sériculture.
C'est pas un peu. C'est le meilleur centre de recherche sur la sériculture.
OK.
on pourrait dire que c'est le plus complet, le plus. C'est le centre de recherche à séricole du Québec. C'est le seul centre qui a toujours des gens qui travaillent juste sur la sériculture. Tu as des universités qui vont travailler sporadiquement sur certains projets, mais eux, c'est des gens qui ne font que ça. Là.
Que ça. Parce que souvent, quand on a des études, il y en a qui arrivent du centre Acer, mais il y en a d'autres aussi qui arrivent quand même pas mal de l'Université du Vermont.
Oui, oui. Ça intrigue beaucoup de monde.
Oui.
Oui, ça intrigue beaucoup de monde. Pourquoi? Ce qui est important, là, et puis là, moi, je prêche pour le Québec, là, OK, parce que moi, je suis quelqu'un qui adore lire des articles scientifiques. OK. Bon, bien, écrire un article scientifique, c'est un processus extrêmement rigoureux qui est très long, qui n'est pas facile. Puis les données que tu mets dans ton article scientifique, bien, ils ont besoin d'être bonnes. Alors qu'au Vermont, eux, ils vont souvent publier des tests. Bien, moi, là, je fais des capsules, je fais des tests. Je fais pas des articles scientifiques avec ça. Là.
Non, c'est un test.
Mais l'Université du Vermont ne fait pas souvent des articles scientifiques comparés au centre Acer parce qu'ils font des petites recherches, toutes petites, sur un nombre d'arbres très limité. Puis souvent, ils ne veulent rien dire, leurs résultats. Je dis souvent, là, j'essaie d'être poli. Là. Fait que souvent, les gens qui me sortent ça, au Vermont, sont bien plus actifs. Ouais, peut-être qu'ils ont l'air plus actifs. Mais ce qu'ils font ne nous aide pas tout le temps. Je vais te donner un exemple simple. Moi, le chalumeau check valve, là, okay, qu'eux autres, ils parlent autant au Vermont, là, ben, nous autres, on a travaillé là-dessus au centre Acer il y a plus de 20 ans. Puis on est arrivé à la conclusion que ça ne servait à rien.
OK.
Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que ton chalumeau, il a beau être check valve, mais les micro-organismes, ils rentrent par les fuites du chalumeau. Donc, il arrive en arrière de la valve.
Il arrive de l'autre bord, là.
Il arrive de l'autre bord. C'est le principal point d'entrée des micro-organismes. C'est le chalumeau, l'eau qui ruisselle quand il pleut. Imagine-toi, si tu as une fuite, ça rentre tout en dedans avec toutes les levures qu'il y avait sur l'écorce. Donc, le premier lieu de contamination, c'est l'aspiration. Fait que là, ton check-valve, il sert absolument à rien. Mais tu vois, le centre Acer, eux autres, ils en ont fait une vraie étude sur le check-valve. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé le chalumeau, ils ont regardé est-ce que c'est contaminé à l'intérieur. Puis, le résultat, c'est qu'il est contaminé à l'intérieur. Donc, il n'a pas empêché les bactéries d'entrer dans l'entaille.
Mais là, aujourd'hui, il y a une compagnie là, qui essaie de leur pousser bien gros, le chalumeau check-valve. Mais le chalumeau, c'est pas le même qu'il y a 20 ans non plus.
Ah, il y a 20 ans, non, mais moi, celui que j'ai testé, là, c'était même pas un chalumeau. On mettait carrément, tu connais les pièces industrielles Swedge Lock, là? On
OK.
mettait carrément un Swedge Lock dans l'arbre.
Ah, ouais.
Ah ouais, carrément, là. C'était encore mieux que ce qui existe aujourd'hui, là.
OK.
Mais comme je t'explique, ça rentre par les côtés.
Oui, non, c'est ça.
Ça rentre par les côtés. Donc, la contamination de l'entaille, tu sais, il y en a beaucoup qui vont dire le check valve, c'est important pour la contamination de l'entaille. Bien, ça n'aide pas nécessairement pour la contamination de l'entaille parce que ça rentre par en arrière. Ça rentre par l'autre porte. Ça rentre par la grande porte.
Puis de l'autre affaire aussi, pour que le check-valve reste collé, ça prend un vacuum dans l'arbre pour tenir la bille. Une minute qu'il n'y a plus de pression, le check-valve, lui,
Mais il ne sert
s'il
pas.
y a de l'eau
Il ne sert pas.
qui va y aller, on va y aller pareil.
Ben oui. Puis, anyway, c'est pas. Comment je dirais ça? Je connais des gens qui font des super productions, puis c'est pas ça qu'ils ont.
Non, c'est ça.
Puis, c'est un outil parmi tant d'autres, mais comme on dit, tu sais, des fois, les seuls qui ont fait une vraie étude dessus, okay, ben, leur étude, les gens ne l'aiment pas, ils n'en parlent pas. Mais probablement aussi, ben, c'est que l'étude aussi, quand tu fais une vraie étude, elle est compliquée. C'est plus ardu à lire. C'est pour ça que nous autres, souvent, on va faire des capsules même sur des articles du Centre Acer. On en utilise énormément dans ce qu'on fait parce que, ils ont une super belle valeur. Fait qu'on n'est pas gêné d'utiliser ce résultat-là, tandis que ce qui vient du Vermont, on le trie beaucoup, on le trie fort, puis ça va arriver des fois qu'on va mettre un petit bémol, là, t'sais. On va dire, ah, mais une fois de temps en temps, il en sort un très bon, là, mais c'est pas tout ce qui sort de là qui a été fait avec la même rigueur que le Centre Acer.
Parce qu'il y en avait une étude, je pense, qui venait du Vermont. Puis si je me souviens bien, tu l'avais même essayé à un chef à la cabane. C'était de couper un arbre
Ouais,
puis mettre des
ouais,
chalumeaux dessus. Là, à un moment donné, j'ai eu quelqu'un qui m'avait dit hey, aux États-Unis, les autres, ils récoltent du sirop tout de même.
Ben non, ben non.
Hey, minute,
Ben
là,
non,
minute, minute, là. T'sais, hey, ouais.
ben non, c'est un essai que des gens ont fait, qui a une valeur, mettons, dans une plantation que tu voudrais éclaircir. Fait qu'avant de l'éclaircir, tu vas commencer à récolter dans une plantation. Tu sais, plutôt que d'attendre 50 ans que tes arbres soient assez gros, tu en plantes beaucoup, puis là, à mesure que tu en enlèves, ben, tu peux récolter. Donc, tu peux peut-être commencer à récolter, je sais pas, mais 20 ans d'avance, là, tu sais. Puis commencer à t'installer. Puis ça tenait dans ce contexte-là, mais sinon, ça tient pas la route, là, tout ça.
Ben non, ouais. Ouais, tu vas scraper de la production. Ouais. On botte toutes les arbres, ça, puis on siphonne ça par le dessus. Voyons donc, ça marche pas, là.
Ah non, ça marche pas. Mais c'est drôle. C'est vraiment drôle, là. Ouais.
Non, mais
Fait que
c'était fun de voir que
c'est
tu
ça.
fasses des essais de ce genre-là, un peu qui sortent au bout de nulle part. Hein, on va l'essayer. Monte ça à TV, tu sais, ça marchait pas plus qu'il fallait, là, mais tu sais.
Ben non, mais c'est pas facile, là, tu sais, de la rendre étanche un dessus de branches coupées, là. Mais tu
Non.
vois, moi, c'est ce que j'aime faire. J'aime essayer n'importe quoi. J'adore ça.
Good.
On essaye, nous autres chez nous, on essaye plein, plein, plein d'affaires.
Fait que là, quand tu étais à l'emploi du centre Acer, tu n'avais pas encore d'érablière, là. Ben, tu travaillais dans le domaine. Ah, mais
Quand j'ai
tu étais
commencé
encore à
au centre
Frampton, c'est
Acer,
vrai. Oui.
j'étais encore à Frampton. J'étais encore à Frampton. Puis après, moi, j'ai eu dans mon parcours, j'ai travaillé pour un manufacturier qui est Dominion Grid.
Oui.
Puis, j'ai travaillé avec eux une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années, là. Mais dans mon parcours avec eux, j'ai plutôt travaillé à partir d'un certain moment dans une division en environnement. Fait que j'ai quitté la sériculture pendant, pour moi, un 7-8 ans,
Ah oui.
là. Ouais, bon, je travaillais en biométhanisation.
Ah ouais, un...
Chez, ouais, parce que chez Dominion Grimm, il y a une division qui s'appelle Dominion Grimm Environnement. Puis moi, j'étais avec les propriétaires là-dedans pour mettre en place des systèmes de biométhanisation, une technologie qu'on avait pris en Europe.
Ah oui, parce que là, ça commence à aboutir un peu des systèmes de
Oh, ouais,
bio.
ça commence à aboutir, mais là, moi, je suis plus là-dedans. Là. T'sais, moi, je suis. En fait, c'est là, ça c'était une grande parenthèse. Puis, j'avais fait aussi, quand j'étais chez Dominion Grimm, un autre guide d'aménagement. Ça s'appelait l'érablière sucrière, écologie, entaillage et aménagement. Ça s'appelait comme ça. Puis, ça a été quand même un bon succès comme livre. Et puis, Martin Picard avait lu ce livre-là.
OK.
Et puis un jour, quand Martin Picard, le chef cuisinier qu'on a vu
Un
dans
chef à la
Chef en
cabane, là.
cabane, on va le mettre dans le contexte, pas tout le monde qui sait c'est qui. Alors, lui avait lu ce livre-là. Moi, je connaissais Martin Picard parce qu'il faisait une émission à la télévision qui m'intéressait. Ça s'appelait Martin sur la route. Moi, la chasse, la pêche, ces affaires-là, j'aime beaucoup ça. Puis je trouvais ça intéressant, toute la démarche d'aller cuisiner dans des conditions pas possibles, on va dire. Mais, et puis, un jour, il m'appelle. Il avait eu mon numéro par Dominion Grimm. Puis là, il dit, je lis ton livre, j'aime ça, j'aimerais ça. Il dit, si tu pouvais faire un chapitre dans mon livre de cuisine, La cabane au pied de cochon. Bon, je dis, bah oui, je dis, ça m'intéresse. Il voulait faire un chapitre qui parlait du sirop d'érable. C'est quoi du sirop d'érable? Parce que son livre se destinait à la planète au complet.
Oui.
Hein.
Basé
Alors,
sur le sirop
ben,
d'érable, là.
ouais, basé sur le sirop d'érable. Et puis, ben, écoute, moi, j'avais dit, ben, je lui ai dit, OK, ouais, go, on fonce. Puis, moi, je travaillais déjà beaucoup avec mon épouse, Edith Bonneau. Puis, on avait écrit le chapitre ensemble.
OK.
On avait écrit le chapitre ensemble. On a développé avec le temps une façon de travailler en équipe, moi, puis Edith. Donc, on travaille de concert depuis vraiment très, très longtemps. Et puis, on fait le chapitre. Puis, écoute, le livre de cuisine a gagné le meilleur livre de cuisine au monde, là. Puis, ça m'a permis de rencontrer Martin Picard, un gars que je trouvais extrêmement sympathique. Puis, un jour, il m'invite chez eux à la cabane. Puis, il dit, ah, ça serait le fun. Il dit, on allait manger au restaurant un soir. C'est là qu'il m'a dit, il dit, écoute, on va faire une émission. On va s'appeler Un chef en cabane. Puis il dit, moi, il dit, je te vois. Il dit, venir faire une intervention sur. Il dit, je me vois pas expliquer la sériculture.
OK.
Il dit, on peut pas l'expliquer. Puis il dit, je me vois pas, moi, le faire. Fait que je dis, OK. Fait que là, il me dit, tu viendras en réunion de production. Fait que là, je me rends. La boîte de production, c'est Attraction Images qui produisait Un chef en cabane. Et puis j'arrive là, à la première réunion. Il y avait 10 grands panneaux sur le mur, épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis là, je dis à la responsable, je dis, écoute, je dis, moi, je suis dans quel? Ben, tu es dans tout. Moi, je n'avais pas compris que je serais dans tout, tu sais, parce que pour dire, je n'étais pas sûr d'avoir le temps d'être dans tout. Mais quand même. Et puis, ça m'a ramené complètement en acériculture.
Ok, c'est ça que t'as
Ça
ramené à la
m'a.
sériculture, là.
Ouais, c'est vraiment ça. Puis c'est drôle ce qui m'a ramené parce qu'en fait, moi, j'avais jamais arrêté de suivre l'évolution, puis tout ce qui se passait, puis lire les articles scientifiques. J'ai jamais arrêté ça. Mais là, de venir l'expliquer à la télévision, puis surtout de me rendre compte que, mettons que je donne un exemple, Martin Picard ne faisait pas 3 livres en entaille. J'arrive chez eux, moi, avec l'expérience que j'avais déjà, je regarde les arbres, je dis, écoute, je dis, moi, là, je dis, si je faisais pas 6 livres, je pleurerais. Mais là, lui, à l'époque, il croyait même pas que ça se faisait 6 livres, là, tu sais. Fait que, on commence comme ça, puis il a monté vite, là, parce qu'il y avait des pantins verts, il y avait des fuites, il y avait un mauvais entaillage, il y avait toutes sortes de petites choses comme ça. Sauf que, peut comprendre une chose. Moi, je ne connaissais pas le pouvoir de la télévision. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup la télévision, donc je ne connais pas son pouvoir. Et puis, le samedi matin, ma grande activité, c'était de refuser des amis sur Facebook. Et puis, par centaines.
Oui, j'imagine, oui.
Par centaines des acériculteurs qui ont vu ma face sur Facebook. Là, j'ai dit, il faut que j'enlève ma photo. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je peux pas. Puis c'est drôle parce que c'est Edith, mon épouse, qui me dit, tu peux pas aller à la télévision puis te fermer complètement tout ça. Tu sais. Elle dit, tu crées quelque chose. Puis, fait que là, elle dit, tu devrais t'ouvrir un compte Facebook professionnel. Puis là, je dis, oh, bonne idée. On a appelé ça Stéphane Guy, biologiste. Parce que c'était ça, mon personnage.
Dans le fond, à la
télévision, il m'appelait Stéphane Guy, biologiste. Donc, on a mis Stéphane Guy, biologiste. Puis ça me décrit bien. Ça ne peut pas me décrire mieux que ça. C'est ça que je fais. Puis c'est le même que je vis comme biologiste. Alors, écoute, on ouvre la page. Puis là, monde qui s'abonne. Mais déjà que spontanément, on a eu quasiment 5000 amis d'un coup. On fait une petite vidéo, 5-6 000 vues. On était là, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Moi, je n'avais toujours pas compris, à part que quand je faisais l'épicerie, le monde venait me dire salut. Là. Mais je n'avais pas compris le pouvoir de la télévision.
Tu n'avais pas compris que l'émission t'a vraiment écouté, là?
Moi, j'avais pas compris exactement ça. Ouais, c'est en plein ça. Puis surtout que c'est une émission qui a touché beaucoup les gens de la campagne. Hein.
Oui.
On se retrouve un peu. T'sais. On se retrouve pas souvent dans les émissions de télévision hein, comme producteur agricole. On n'a pas une grande place. Hein. On peut pas dire qu'on... Moi, souvent, je m'amuse à dire quand on voit de l'agriculture à la télévision, c'est parce que c'est du monde de la ville qui sont allés en campagne. On ne voit pas du monde de la campagne qui on n'en voit pas beaucoup à la télévision. Là, fait que là, je me suis dit, ah, ben, écoute, le monde se retrouve, c'est le fun. Puis, mais de fil en aiguille, là, on a, à un moment donné, voyant le nombre de vues qu'on avait, écoute, on était des 100 000 vues. Là, des 100 000 vues sur nos capsules qu'on mettait. Alors, il y a un manufacturier qui rentre en contact. Il dit, moi, j'aimerais ça placer de la pub sur votre page. Puis là, je te mentirais pas. Nous autres, on a fait ça pendant un an de temps. Okay? On a arrêté de travailler le vendredi, moi, Pédite. On s'est dit, oh, on se paye ça. Le vendredi, on ne travaille plus, on fait des capsules.
OK.
Qu'on se occupe un petit peu pour s'amuser.
Mais là, à ce moment-là, tu n'étais plus à l'emploi de Dominium Ingrim.
À mi-chemin.
À mi-chemin.
Je faisais encore des contrats pour eux, mais j'étais plus contractuel.
OK. Parce que quand tu as lancé, mettons, la page Érable et Chalumeau, tu avais plusieurs commanditaires, mais là, tu n'étais plus à l'emploi de Dominium Ingrim. Là.
Non.
OK, c'est ça.
Là, on est encore dans la page Facebook. Stéphane Guy, biologiste.
OK.
Et puis, on fait ça ensemble, moi et Edith. Puis, on se rend compte. On se rend compte qu'il y a une possibilité de qu'on ne fasse pas ça, qu'on ne paye pas, parce que là, on était rendu qu'on payait. On perdait chacune journée de salaire par semaine. Puis, plus on payait les dépenses de tout ça.
Oui.
Tu sais, quand même, tu sais, à un moment donné, si tu te mets le chiffré, là, c'était quand même gros, là, le don qu'on faisait. Là. Et puis, le manufacturier qui est rentré en contact, c'était H2O, on va dire. C'est H2O qui nous ont demandé de une rencontre, puis on s'est entendu. Puis nous autres, de base, on n'est pas du monde qui aime être dépendant. Tu mets tes vidéos sur Facebook, demain matin, Facebook, disons, bon, à partir d'aujourd'hui, pour regarder vos vidéos, on va vous charger 2$ par mois par vidéo. Tu sais, ça peut arriver. Fait qu'on a tout de suite décidé de faire notre propre site Internet, Érable et Chalumeau. Et ce site-là, il est hébergé. On a un hébergeur à Montréal là, qui dans un serveur dédié, qui a toutes nos vidéos. Ils ne sont pas sur YouTube. Ils sont vraiment hébergés par nous. On paye l'hébergement de tout ça, là. Puis comme ça, de même, on n'a jamais de surprise. Puis ça nous appartient. On ne l'a pas donné à quelqu'un d'autre. Fait que ça. Mais là, on a. Puis tu sais, c'est drôle parce que. Tu savais comment c'est, tu sais, dans la vie de trouver des noms, là, pour un nom pour quelque chose. On ne savait pas comment appeler ça. Hein?
Avant de trouver Érable et Chalumeau, tu veux dire?
Ouais, avant de trouver. Tu sais, il y a tellement d'affaires en acériculture, à serre ci, à serre ça.
Ça sert plus à rien, ou tu
Ouais, c'est ça, c'est ça.
sais.
Puis Edith, un matin, elle me dit, hey, elle dit, je l'ai trouvé. Elle dit, Érable et Chalumeau. Je me suis vendu. Ça peut être compliqué, hein, tu sais, ça peut pas être plus simple. On va toujours avoir des érables, puis je pense que ça va toujours prendre des chalumeaux pour faire de la sériculture. C'est là que c'est parti. Là, ça fait 7 ans qu'on fait érables et chalumeaux.
Quand
C'est
même,
de
déjà 7
même.
ans.
Oui, vraiment. Puis on a la chance d'avoir un réseau de gens extrêmement polis. Moi, je suis toujours surpris de voir comment les gens sont gentils. On a des beaux commentaires, c'est constructif. Quand on a des questions compliquées, une fois de temps en temps, il y en a tout le temps. Mais non, pas. Nous autres, on a été agréablement surpris du contact qu'on a avec les gens. On les apprécie énormément, là. Puis ils sont là tout le temps, là. Ils nous lâchent jamais.
Non, mais
Tu sais,
tes capsules sont intéressantes, par exemple. Moi, en tout cas, on les suit, là. Moi et mon père, on les suit, puis on aime bien ça, là. C'est super intéressant, là. C'est constructif.
écoute,
Ça vient aider à tout le monde, là.
hey, puis les sujets, là, c'est la communauté qui nous les propose, hein. À un moment donné, là, quand ça fait 20 fois qu'on répond à la même question, on a dit, ouais, là, il y a une capsule, là. C'est clair, on ne l'avait pas vu, mais il y a une capsule, là. Il y a clairement une capsule. Puis c'est un beau moyen pour nous de venir complètement, comment je dirais ça, combler le besoin qu'on a de se poser des questions. Moi, mon cerveau, il n'arrête pas trop souvent. Puis j'ai toujours 20 000 questions que je me pose sur la sériculture. Puis là, j'ai du support, j'ai ce qu'il faut, puis une fois de temps en temps, on sort une capsule, puis ça marche bien, là. Tu sais, c'est vraiment. Là, on est dans une grosse période d'achalandage, nous autres, là, en ce moment, là, le site est souvent en feu, on va dire, là. Alors, il y a des journées où on peut avoir comme. Je pense qu'on a eu une journée, là, 200 000 pages visitées, là.
Et tabarouette.
Non, non, c'est pas rien. Le mois de janvier, normalement, on va dépasser 1 million de pages visitées.
Ah boy, tabarouette, ça va bien.
Non, non, c'est extrêmement visité. Puis le temps de visite aussi, nous autres, quand on a commencé, il y a quelqu'un qui nous avait conseillé, il nous avait dit une capsule, c'est 30 secondes. Le monde, tu les auras pas plus que 30 secondes. Fait qu'il dit ton message dans les 30 premières secondes. On se préoccupe même plus de ça.
OK.
Nous autres, là, on va faire une capsule de 10 minutes, là. Ben, il y a 80% du monde qui vont l'écouter 10 minutes. Ils ne se rendent pas au générique, ils ne se rendent pas à mes salutations, mais ils se rendent jusqu'à la fin de l'explication. Fait qu'on est extrêmement chanceux. On a un temps d'écoute par capsule moyen de 5 minutes quelque chose, là.
Moi, j'ai des statistiques semblables, moi, avec mes podcasts.
Ben oui,
Le
le
pourcentage
monde aime ça.
d'écoute, là. Le
Ben oui,
pourcentage d'écoute, là. Puis sur
c'est le fun.
YouTube aussi, j'ai ça, là.
Ouais.
Un pourcentage d'écoute. C'est assez important, là, tu sais.
Ouais, puis c'est une bonne clientèle. C'est du monde extrêmement gentil, puis qui sont là. Ils sont là pour nous autres, puis on essaye d'être là pour eux autres le plus possible. Mais tu vois, aujourd'hui, nous autres, on a déménagé. Hein, cette année, ça prend un autre virage, Érable et Chalumeau, là. S'il y en a qui ont pensé qu'on était un peu au ralenti parce qu'on a sorti moins de capsules, C'est parce qu'on en prépare des grosses. On en prépare des grosses, mais en même temps, on est passé de l'île d'Orléans, nous autres, à Kenner's Mills cette
Dans le
année.
fond, tu es passé de Frampton à l'île d'Orléans. C'est ça?
Non, 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 non,
Non?
t'en manques un bout. Non, non.
Ouais,
On
mais
a
c'est.
passé de, nous autres, on est passé de Frampton à Tignouic dans les Bois-Francs,
OK?
en passant par Québec quelques mois, là, mais ça, c'est une transition. Et puis, on est parti de Tignouic pour aller à Québec. Pendant le plus gros d'un chef en cabane, je restais à Québec. On avait
OK.
une petite érablière dans le bois là, que j'avais construit avec Edith. Là, puis après ça, on est allé à l'île d'Orléans. Puis à l'île d'Orléans, on est resté seulement 3 ans.
Ah non, c'est ça, t'as pas été longtemps là.
Ben non, on n'a pas été longtemps là. Puis pourtant, on pensait qu'on serait longtemps. Alors, écoute, on a construit une cabane pièce sur pièce. Puis écoute, on pensait vraiment qu'on serait là longtemps. Mais tu vois, il y a un autre projet qui s'est présenté, un peu plus structurant pour nous. Puis nous autres, on a toujours fait nos affaires en production artisanale, par nous-mêmes. Puis là, tu vois, on a un contingent. C'est la première fois qu'on a du contingent, nous autres. Puis on n'aura pas le temps de faire du détail. On va vraiment tout vendre en contingent. Puis on se consacre plutôt à faire nos projets, là.
OK. Fait que fini la vente au détail. On fait des
Fini la
becs.
vente au détail pour, en tout cas, pour un grand bout de temps, parce qu'on a trop de projets là, devant nous autres. Là. On en a vraiment pour plusieurs années. Parce que tu vois, dans le site, quand on parlait de ça tantôt, on a eu tous les manufacturiers céréales qui, à un moment ou à l'autre, ils ont été commanditaires de notre site.
Oui.
Mais en tout cas, pour ceux qui courent la publicité, ils sont au courant que c'est extrêmement exigeant là, de faire les comptes rendus mensuels, des vues, puis tout ça. Puis on était rendu, mais on passait quand même un bon bout de temps, puis à gérer tout ça, à un point où, tu vois, Edith, là, ma conjointe, elle a quitté, elle s'est consacrée à Érable et Chelumeau, quasiment depuis le début. Ça doit faire 7 ans qu'elle est en plein dans Érable et Chelumeau. Moi, je suis resté dans l'énergie renouvelable jusqu'à cette année. Moi, c'est la première année que je suis 100% dans Érable et Chelumeau.
OK. Tu étais dans l'énergie
Ouais.
renouvelable. Tu étais encore contractuel pour
Ouais,
Dominion, non?
non, non, mais j'étais à l'emploi d'une firme d'ingénierie, Groupe Génétique. C'est ceux qui ont fait le projet de Warwick, là. Donc, moi, j'étais derrière ce
Ah,
projet-là,
pour les
dans
éoliennes?
plein d'aspects. Non, 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 la biométhanisation.
Ah, OK.
Projet
Ouais,
de
c'est.
biométhanisation, ouais. Moi, j'ai fait ça, écoute,
Comment ça s'appelle? C'est pas Coop Agro Warwick?
ouais, Coop Agro-Énergie Warwick.
OK, c'est beau.
Oui, c'est ça. Bon, ben, moi, j'ai été là au montage. J'ai travaillé même pour la coop carbone un certain temps. Après ça, pour Groupe Génétique. Après ça, comme contractuel. Puis là, c'est cette année, nous autres, il y a 2 ou 3 ans, il y a 3 ans, à un moment donné, on a rencontré un problème avec notre site, tu sais, qui était, là, tu te construis une nouvelle cabane, puis là, faut que tu mettes tous des équipements neufs, puis là, tu es commandité par tout le monde. Tu me vois venir, là, hein?
Oui.
Là, c'est compliqué sans bon sens.
Oui. Tu
C'est
veux pas en
vraiment
froisser un?
compliqué.
Tu voudrais faire
Tu
plaisir à
peux,
tout le monde?
tout ce que tu peux faire, c'est toutes les froisser, en fait.
Ouais.
Puis là, on avait pris tellement d'envergure au niveau de la crédibilité qu'on a, parce qu'on fait extrêmement attention, moi, Pédit, à la crédibilité qu'on a. On essaie toujours de dire des choses vérifiées, puis si ce n'est pas vérifié, on le dit, parce qu'on veut être un site fiable. Okay? On essaie qu'il n'y ait pas de fausses nouvelles sur notre site. Alors, là, c'est certain que quand on met un équipement chez nous, beaucoup de monde, dans leur tête, ça veut dire que c'est bon.
Oui.
Fait que on sait que ça fait ça, donc on choisit nos choses avec beaucoup de parcimonie. On est conscient que ça a cet impact-là. On en est très conscient. Et puis, à l'intérieur des commanditaires qu'on avait, on en avait déjà un qui était un commanditaire qui était plus facile que tous les autres, c'était les équipements Lapierre. Eux, ils ne nous demandaient jamais de compte rendu, de publicité, de quoi que ce soit. Eux autres, il y avait comme une espèce de minding qui ressemblait au nôtre. C'était si les gens ils écoutent vos capsules, ils vont devenir meilleurs. Et s'ils deviennent meilleurs, bien, c'est à nous autres d'être bons. Puis si on est bon, ils vont acheter nos équipements.
Ah.
Hein, c'est. Puis là, ils nous ont proposé d'acheter tous les espaces publicitaires de notre site.
OK, pour être exclusif.
C'est pas une exclusivité. On peut avoir encore des commanditaires qui sont de d'autres entreprises, mais pas des compétiteurs des équipements Lapierre. Il y a des gens qui offrent des services connexes, donc ils peuvent être commanditaires sur notre site. Mais les équipements Lapierre ont acheté, puis je dis ont acheté, puis aujourd'hui, on va plutôt parler de partenariat parce que on est vraiment devenu. Ils nous offrent, nous autres, la possibilité d'offrir les capsules gratuitement. T'sais. On n'a pas besoin de demander d'argent à personne. D'ailleurs, on n'en a pas. T'sais. Nous autres, on n'a pas de financement public de quoi que ce soit. Nous autres,
Aucune subvention, puis.
non, le seul regroupement de producteurs, mettons, même les producteurs, là, le seul regroupement de producteurs qui donne à Érable et Chalumeau, c'est le Nouveau-Brunswick. C'est l'Association acéricole du Nouveau-Brunswick. C'est les seuls qui nous donnent un support financier. Là.
Les PPAQ sont même pas là-dedans.
Non, les PPAQ nous ont jamais. On a fait à un moment donné une série de quatre capsules avec les PPAQ. Là. C'était des capsules qui étaient comme des portraits d'acériculteurs. Mais c'est la seule fois qu'on a eu un support financier. Là, mais on travaillait pour. Ce n'était pas un support comme le Nouveau-Brunswick où comme association, on veut notre logo dans le bas, puis on est super content d'être là parce que l'information que vous nous donnez, elle nous rapporte.
OK.
Mais c'est comme ça. Mais là, nous autres, le fait qu'on ait pu accourir la publicité, on est complètement dédié là, à nos projets. Puis là, notre nouveau projet, il est encore plus motivant. Parce que lui, il est arrivé avec. C'est pour ça que je peux être temps plein dans Érable et Chalumeau. C'est qu'on teste des équipements pour les équipements Lapierre.
OK.
Fait que les autres, on a à développer des protocoles de test, à développer des choses. Comment on teste ça, tel type d'équipement? Puis on commence à élaborer là, différents protocoles. Mais c'est vraiment. C'est tout nouveau pour nous autres comme façon de faire. Mais c'est extrêmement motivant parce qu'au travers de ça, on a les équipements à la fine pointe. Nous autres, on a la chance à cause qu'on se dit qu'on veut tester un modèle, dans le fond, pour les petits producteurs d'autour de 5 à 6 000 en taille. Parce que nous, ici, l'érablière qu'on a acheté, c'était une érablière qui, au départ, avait 2 000 en taille, mais qui produisait plutôt comme une 5 000. Là. Ici, on est plus dans le salive
Un beau
que dans le
potentiel,
salive,
là.
là. Oui, il y a un bon potentiel. Les érables sont beaux, mais c'est un secteur qui normalement coule bien, sauf l'année passée. Mais je n'étais pas là. C'est bien correct.
Ah, tu vas amener de la chaleur dans le bois, Stéphane.
c'est sûr. Bon, en tout cas, l'important, c'est nous autres, on aborde ça comme un peu une chance incroyable parce que ce qui nous a amené dans les faits, c'est que c'était une installation qui était neuve. Hein? Et ici, ça n'a pas été construit il y a longtemps. La cabane a été construite en 2018, je pense, la maison en 2021, et on habite la cabane à sucre.
T'habites dans la cabane.
Ouais, moi, là, la porte qui est juste à côté, là, c'est la maison. Puis ça, pour nous autres, c'était extrêmement important. Là, tu sais, mon bureau est dans la salle d'évaporation.
Moi, parce que là, on est sur Zoom présentement, puis là, on voit ton merveilleux champion, Force 5 de la pierre.
Ouais, écoute, non, mais écoute, moi j'aime les équipements, là, tu sais, bon, puis je pense qu'on est tous un peu pareils, là. Moi j'adore ça, là, puis cette année, là, on a monté un modèle qu'on pense qui va correspondre à la problématique de plusieurs personnes qui ne peuvent pas quitter leur emploi pendant les sucres. Comme nous autres, pendant les sucres, on n'a jamais pu vraiment avoir une érablière substantielle parce que c'est le moment où il faut faire beaucoup de capsules.
Oui.
C'est la grosse période. Les gens veulent qu'on en sorte pendant les sucres. Alors, on n'a pas, on peut pas être occupé à faire les sucres parce qu'il faut qu'on fasse des capsules. L'air de rien, une capsule, c'est une journée de recherche. Fait qu'on m'opédite, on s'installe. Nos bureaux sont côte à côte. Hein. On travaille vraiment collés comme ça, côte à côte, chacun de nos écrans. Et puis, là, on fait notre recherche. Quand la recherche est complétée, on essaie de voir cette capsule-là, on peut la faire sans faire de petits projets. S'il y a un petit projet à faire, là, c'est plus long. Là. Je ne sais pas, à un moment donné, quand on a voulu tester les vitesses de perceuse, ça, c'est long. Là. T'sais, t'sais pas... Fait que là, si on est capable de faire quelque chose qui est théorique, donc on fait notre recherche. Après ça, on va tourner. Ça prend peut-être 2, 3 heures pour le tournage. Puis après ça, il y a une journée de montage. Fait que ça, c'est ce qui est le moins long. Là. Quand on produit une
Oui.
capsule, ça veut dire que c'est 2 jours de travail là, au minimum là, pour. Puis après ça, la mise en ligne qui demande une demi-journée encore. Là. Puis après ça, c'est des centaines de questions par semaine. Et je dis bien centaines de questions par semaine, et des fois, c'est par jour. Là. Puis on répond à tout le monde. Fait que, tu sais, une journée, ça a l'air de ça. Fait qu'on peut pas. On peut pas normalement. Fait que nous autres, on dit. Nous autres, il fallait qu'on soit dans le modèle du gars ou de la femme, hein, la séricultrice, qui n'a pas le temps de faire les sucres. Puis, quand tu es en bas de 7 000 en terre, tu peux pas payer du monde. Il t'en reste pas assez pour payer du monde. Il faut que
Non,
tu le
c'est
fasses
ça.
toi-même. Nous autres, on est installés ici. On a un petit silo dehors. Fait que l'eau d'érable, elle peut s'accumuler là un peu. On a une osmose qui nous permet de concentrer à 30 Brix. Puis un petit ball tank. Fait
Réfrigéré.
qu'une journée, nous autres, on va faire nos journées cette année comme si on travaillait. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, je vais osmoser. Je vais stocker ça dans mon petit ball tank. Puis je vais bouillir 8 fois dans mon année.
OK.
Je vais choisir quand est-ce que je fais bouillir.
Mais t'as eu le
Fait
temps.
que là, j'ai le temps. Je vais avoir le temps, puis je vais avoir le temps de le faire comme il faut.
Fait que dans le fond, ton champion, es-tu monté 50-50?
Non.
50% de panne à plis, 50% de panne plate?
Non. Non, non, j'ai 2 pieds de plis, puis 5 pieds de fond plat.
OK, c'est parce que là, on ne voit pas le fond. C'est pour ça, là, c'est la
Ouais, toi, tu le vois pas, là, mais ouais, c'est ça. J'ai juste 2 pieds de panne à plis, là.
OK.
Ouais. C'est ça. Fait que là, on est tout installé comme ça, avec. Puis là, bon, on va expérimenter l'ensemble de tout ça. On a un petit système de détection des fuites, un data serre, là, pour regarder si on a des fuites, tout ça, pour pas avoir à aller dans le bois si on n'a pas besoin. C'est toujours dans le but de dire, hey,
Sauver les
quelqu'un qui
pots.
a ça, ben oui, quelqu'un qui a ça, il va pas partout, là, t'sais, il va pas courir partout, là, il n'a pas besoin. Fait que là, on est là-dedans. Mais nous autres, dans le fond, c'est qu'on va avoir toute une série de tests à faire pendant le jour. Quand on ne fait pas notre travail de sériculteur, ben nous autres, on va faire des tests. Et en plus, on va faire des capsules. Donc on va être un peu débordé cette année. Et ça va être. On reste dans la cabane, c'est ça qui nous aide.
Puis, tu vas faire un année de test avec une nouvelle cabane. T'sais, là, il faut que tu apprennes à l'apprivoiser d'une certaine façon. Il y a bien des
Ah, ben
équipements
écoute.
que tu n'avais pas avant. T'sais. Oh oui!
On a tout enlevé.
Oh oui, c'est ça. Tu as tout retubé ça en eux.
Pas tout, mais les chalumeaux sont changés, les raccords sont changés. Fait que. Parce qu'il n'y avait pas les chalumeaux que j'aimais, puis il n'y avait pas les raccords qu'il fallait. Fait que, parce qu'il ne faut pas de fuite. Moi, je suis allergique aux fuites.
Oui. Quand tu parles des raccords, tu veux dire les tébouchons, les unions, toutes ces
Ouais,
affaires-là?
c'est les tesselles, là. Peu importe comment le monde appelle ça, là. Mais
Moi, les manifolds, les.
les manifolds, peu importe le nom inventif qu'on trouve. Moi, j'appelle ça un raccord 5-16 au collecteur principal.
Au main,
Oui, c'est
là.
ça. Fait que dans ce temps-là, ben, c'est parce que ça, c'est la pire fuite que tu peux avoir. Hein. Celle-là est mortelle. Là. Si ton raccord fuit, moi, je dis au monde, là, je dis, installe-toi chez vous, prends une paille, essaye de voir s'il y a un petit trou dedans. Puis tu vas comprendre assez vite que cette pièce-là est importante.
Oui.
Nous autres, souvent ce qu'on va faire en acériculture, bien, la plupart des systèmes de suivi de fuite, hein, sont faits sur la base de tu regardes est-ce qu'il y a du vacuum en tête de ligne. Mais du vacuum en tête de ligne, ça ne te dit pas s'il y en a en tête de chalumeau.
Non, non, c'est ça.
Parce que du vacuum en tête de ligne, ça peut être amélioré en mettant une plus grosse pompe. Mais là, tu tires des CFM. Mais tirer des CFM, ça ne fait pas venir de l'eau s'il y a des fuites.
Non, c'est ça.
Fait que plus ta pompe est grosse, moins tu sais si tu as des fuites. Moi, c'est souvent ça que moi, j'aime mieux gérer ça en pas trop de CFM, puis d'être étanche. Là. Ça, c'est la meilleure façon de gérer les rablières, là, pour être sûr qu'on a le maximum. Là. Mais une grosse année qui s'en vient. Là, t'sais, vraiment, là, on n'est pas prêt d'ailleurs. Hein? Je vous dis tout de suite que là, on n'est pas encore 100% prêt. Demain, mercredi, on va finir l'installation du système de suivi. Il y a un petit peu de plomberie à faire. Puis, on commence à être serré.
Ben, il y a toujours de quoi faire. Tout le temps, une nouvelle bébelle à rajouter dans le bois ou dans la cabane. Il y a toujours de quoi.
Oui, ben, ouais, il y a tout. C'est sûr qu'il y a toujours de quoi. Mais là, cette année, c'est tout.
Oui, c'est ça. Toi, tu repars 100% en neuf, là.
Oui, c'est ça. Puis, nous autres, on a changé non seulement on a changé les équipements, mais en plus, on a changé les équipements de place.
Je sais qu'avant ça, comme les équipements à la pierre, la cabane à sucre que la famille de la pierre a, elle servait surtout de centre de recherche. Fait que,
oui.
Là, il y a encore cette cabane-là qui va servir de centre de recherche plus la tienne?
Bien, en fait, nous autres, avec les équipements de la pierre, quand on a fait notre première entente avec eux, on devait développer un dispositif scientifique en forêt pour faire le suivi, mettons, on invente un nouveau chalumeau, des choses comme ça, tu sais. Puis, c'était trop compliqué parce que ça demande trop de suivi. T'sais, mettre quelqu'un à suivre ça, parce que tu ne peux pas te permettre, t'sais, mettons, tu as une fuite sur une ligne, mais ta ligne est plus bonne. Faut que tu l'enlèves de ton test.
Ouais.
Fait que là, ça prend un système. Faut que tu sois sûr qu'il n'y a pas de fuite. Moi, c'est ça, souvent, je veux dire, quand tu as un système à juste deux lignes, ben, si tu as une ligne qui a une fuite, une ligne qui n'a pas de fuite, ben, tu oublies ça, ça ne marche pas. Il y en a, moi, j'ai vu du monde qui faisait des tests avec des débitmètres. Okay? Ben, c'est parce que des débitmètres, ça compte l'air aussi. Fait que ta ligne qui a le plus de fuite, c'est celle qui va me faire marcher ton débitmètre le plus.
Ah, c'est bon, ben oui.
Ben oui, hein? Fait que ça ne marche pas, là. T'sais? Fait que tu dis n'importe quoi dans ce temps-là si ça ne compte pas juste de l'eau. Là. Mais tu sais, il y a plein d'affaires comme ça qui font que le faire un système de suivi en forêt, c'était trop compliqué pour qu'on le fasse dans un contexte d'érablière en exploitation réelle. Parce que là, tu sais, quand tu es à 130, 170 000 en taille, d'avoir un dispositif de 1200 en taille à côté qui te demande autant de temps que tout le reste, c'est pas pareil. Là.
Non, non, non.
Ça marche pas. Ça marche pas. Fait que finalement, en déménageant ici, on a décidé que c'est ici qu'on faisait le dispositif. Là. Fait que nous autres, eux autres, ils continuent à faire les tests, ces évaporateurs de gros format, tout ça. Nous, on travaille plutôt sur le petit format. T'sais, notre évaporateur a un 2,5-8. Mais notre 2,5-8 peut accommoder quelqu'un qui a 10 000 en taille maintenant. Là.
Ben, séparé à 30 bricks, là, oui.
Ben ouais, séparé à 30 bricks, là. Puis, séparé à 30 bricks, tu sais, nous autres, là, c'est sûr qu'on va pas bouillir souvent, mais on est équipé comme quelqu'un 10 000 en taille, là. Fait que l'ensemble de l'équipement qu'on a est calibré un peu comme un 10 000 en taille. L'osmose serait capable de faire 10 000 en taille aussi. Donc, on teste vraiment ce modèle-là, là, pour voir est-ce qu'il tient la route. Parce que, dans le fond, moi, je te l'ai dit tantôt, je suis un modélisateur. Okay? Moi, je rentre une pièce d'équipement chez nous, elle se paye dessus. Puis là, je regarde toute la façon de... comment tout ça peut se... peut. Là, imagine-toi, tu commences par regarder ton érablière. Là, tu dis, OK, si je concentre à 30, okay, bien, ça veut dire que mon évaporateur va être petit. Donc, je sauve du pied de cabane. Et l'air de rien, là, moi, ici... la cabane à sucre, là, je viens de l'allonger un petit peu pour me faire un garage. Okay? Et puis, elle me coûte 2 500 du pied linéaire.
OK.
Okay? Mon évaporateur, là, qui prend 8 pieds de moins que celui qui était là, okay? Ben, il me sauve 8 fois 2 500 $ de grandeur de cabane parce qu'il aurait fallu que j'allonge, moi, là.
Oui, c'est ça.
OK? Là, on est rendu là, dans le fond. On est rendu là en agriculture à tout compter. Si ça me permet de faire une cabane plus petite, il faut que je le compte. Fait que là, l'évaporateur est plus petit, donc il coûte moins cher. Fait que ton osmose, qui est plus cher, te fait tellement sauver qu'il est gratuit à la fin. Parce qu'il te fait sauver du bois.
Ben oui.
Il te
Ben
fait
surtout
sauver du bois. Il
ces
te fait sauver de
modèles-là,
l'engrais.
les
Ah
F.
ouais. Bon, mais tu vois, il te fait sauver du temps de travail. Il te fait sauver du temps de travail. T'sais, à la fin, il y a des morceaux qui sont extrêmement payants. Puis moi, j'aime ça le compter. J'aime ça, comment il a coûté, comment il va coûter opérer, puis tout ça. Moi, je tiens tout ça à jour, puis j'aime ça le savoir. Parce que donner un conseil à des gens, tu as toujours deux conseils. Hein? Tu as toujours, ah, c'est ça qui va te donner le plus de sirop. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui va te donner le plus de rentabilité. Il y a des choses qui n'en donnent pas de rentabilité.
Oui.
Puis c'est vrai. Hein? Un évaporateur, s'il ne te fait pas sauver de carburant, ben, admettons qu'il ferait du plus beau sirop un peu. C'est parce que c'est des cennes, ça. T'sais, on parle de cennes, là, la livre, là.
Oui.
Tandis que quand tu travailles dans le bois, ben, c'est des livres, c'est des piastres que tu vas chercher.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Hein? Tu gagnes un tiers de livre, c'est une piastre que tu viens de gagner par entaille. Alors, c'est tout ça qu'il faut mettre en perspective, puis c'est important de le faire. C'est dans ce mode-là qu'on est, nous autres, là.
Parce que, tu sais, de travailler dans le bois, c'est ça qui te fait rapporter plus d'argent. Moi, mon père, il a été vendeur pour les équipements à la pierre. Il a fait ça
OK.
pendant une couple d'années. Fait que c'est une compagnie que je connais très bien, là. Puis, tu sais, quand est arrivé l'histoire des contingents, bon, quand que le monde a fini par comprendre que si ton rendement augmentait, il t'augmentait aussi ton contingent, parce qu'ils font tout le temps la moyenne des
Ah ouais,
3-5 dernières
ouais,
années,
c'est ça.
tout augmente. Fait que là, qu'est-ce que les gars ont commencé à faire? Mettre de l'argent dans le bois, changer des relâcheurs, mettre de la tube bleue neuve, repetir les chalumeaux pour essayer
C'est ça.
d'avoir le plus de rendement possible. Fait
Ah
que
oui,
ceux qui
c'est.
pensent que le contingent, il est là pour limiter la production, c'est pas vrai, colique, c'est pas vrai. Ça limite pas la production, ça limite rien que le paiement. Mais sinon, quand tu as compris que quand ton rendement augmente, il te redonne du contingent, ben tu t'arranges pour que. Là, tu as un objectif de faire augmenter ton rendement, là.
Ben oui, puis aussi, ben, t'sais, on ne va pas se le cacher, là, t'sais, de contrôler la production, là, ben, ça aide à structurer le marché.
Aussi.
Parce que, t'sais, on va dire que si tu ouvres les valves, le prix a tendance à baisser. On le voit dans plein de nouvelles cultures là, qui ne sont pas contingentées. Là, au début, il y en a, ils partent dans un domaine. Ça, ben, regarde, tu as vu les pommes, on entend parler des pommes, le prix des pommes va baisser. Et là, à force de mettre des pommes au Québec, de mettre des pommes, ben, il arrive un certain moment d'année où le prix de la pomme ne peut plus monter. Fait que là, ben, qu'est-ce qui arrive? Ils n'ont pas contingenté, ils n'ont pas dit, hey, on devrait dire, arrêtez de vous installer dans les pommes. Ça se pourrait qu'on en fasse trop et qu'on ait de la misère à vendre. Tandis que de structurer le marché de la sériculture, ça a permis de tenir un prix stable. Puis, tu vois,
Puis de
là il
bâtir
l'a.
une réserve aussi.
Ben, ouais, une réserve quand on peut la bâtir. Là.
Ouais, mais là, l'année
On...
passée, on n'a pas eu de
Mais, elle
rendement
a...
dans les plus grosses régions. Tu sais, c'est pas
mais tu
évident.
vois, la preuve qui a été nécessaire à la réserve, c'est qu'elle a servi.
Ah oui?
Hein? Tu sais, elle a permis de maintenir un marché en équilibre. Mais tu sais, la gestion du prix, puis on ne se le cachera pas, tu regardes avant contingent puis après contingent, ben, le prix, il est resté stable. Parce que sinon, les grosses années, ils ne te donnent rien pour. Fait que finalement, tu travailles beaucoup, puis ta rentabilité est moindre.
Oui. Puis,
Parce que là, tu as dépensé plus, puis.
c'est ça. Puis là, tu sais, si t'as pas grand-chose ton sirop, t'es pas porté à aller investir dans le bois, là.
Ben non,
Parce que là,
ben
les
non, c'est
contingents, en
sûr.
fait, que le monde se sont mis à investir dans le bois énormément, là. Fait que toutes les
Ben oui,
compagnies en ont profité, là. Fait que là, dans ce temps-là, tu
Ben,
fais
c'est...
bien plus de recherche et de développement, puis.
Ah oui, puis de toute façon, on le voit aussi, là, tu sais, on était pendant des années qu'il n'y avait pas grand monde qui s'intéressait à la recherche sur la sériculture. Puis là, il y a plein de centres de recherche qui s'intéressent à ça, là.
Oui.
Ouais, puis c'est vraiment trippant parce que là, il commence à sortir des choses. On a des gens qui font des projets de fond sur les goûts de bourgeon, tout ça. Puis il sort des choses vraiment intéressantes, là. Et moi, je pense qu'on a un bel avenir en sériculture, là.
Oui, moi, en tout cas, c'est sûr que le temps des sucres, c'est un beau temps dans l'année. Puis tant mieux si. Tu sais, on parlait aussi du chef à la cabane. Cette émission-là, là, a fait donner goût à bien du monde de se griller justement d'une petite érablière, là.
Ah ben, écoute, t'as pas idée. C'est le nombre de messages qu'on recevait là, pour nous dire, hey, moi, parti une cabane, c'est grâce à vous autres, c'est moi, vous autres m'avez donné le goût. Puis oui, puis ce que ça a surtout fait, là, moi que je pense, puis comme observateur, c'est que ça a redonné de la fierté aux gens de faire les sucres. Mais beaucoup de fierté. C'est pas juste un petit peu, là. Une bonne grosse vague, là. T'sais?
Oui.
T'sais, parce que veut, veut pas, quand on fait jamais parler de nous autres, là, t'sais, mettons, on va dire, c'est les producteurs de vin, on entend énormément parler d'eux. Puis tu peux être, t'sais, c'est plus facile d'être fier dans ce temps-là. T'sais. Nous autres, pas tant, là. T'sais, avant un chef à cabane, on n'entendait pas vraiment parler de nous autres encore, là.
Non, c'est vrai, on n'entendait pas vraiment ça, mais depuis que l'émission a existé, là, il a rendu un engouement dans l'érablière, là, c'est fou, là.
Oh oui, puis moi je l'ai vu là.
Puis on le voit rien que parmi les pages Facebook, là. Tu as Érablière pour débutants, tu as Saint-Clival-en-Tête, il y en a
ça
beaucoup
finit
des
pas.
groupes. Hey, ça finit plus, là.
Ça finit plus. Non, ça finit plus. Au début, nous autres, on essayait de suivre tout ça. On peut même pas tout suivre ça. On peut pas tout suivre les questions. On peut pas, on s'est limité à ce qui se passe chez nous. C'est assez.
Oui, ben c'est déjà pas mal, là, tu sais, le montage vidéo, comme que tu disais, quand l'ouvrage qu'il faut
Ah
mettre
ouais,
là-dedans, là.
ben, mais tu sais, mais c'est parce que tu sais, à la fin de tout, là, bon, tu sais, on est juste deux, là. Hein? Moi et Edith, là, on est deux. Edith, elle s'occupe énormément des réseaux sociaux, mais c'est la page Facebook Stéphane Guy Biologiste, la page Facebook Érable et Chalumeau, Instagram, YouTube, un petit peu, de moins en moins, on essaie de plus rien mettre. Puis c'est notre site, là, après ça, qui est demandant,
Ouais,
là.
tu vas envoyer le monde sur ton site.
Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, Facebook, nous autres, là, on a comme une règle, on se dit, nous autres, on ne paiera jamais Facebook pour se faire voir. Ben, tu vois, on a 11 000 abonnés, là. Puis quand on sort une vidéo, là, ben, la plupart du temps, Facebook l'envoie juste à 2 000 personnes.
Ouais, Facebook sont plates pour ça, là.
Ouais, c'est ça. Fait que là, tu es abonné, tu penses que tu manques rien, mais tu manques la plupart des capsules, là. Une fois de temps en temps, ils nous en partagent une plus que d'autres. Comme là, la vidéo sur l'entaillage qu'on a sortie il y a peut-être 3 semaines ou 3 semaines et moi, je ne sais plus, 3 semaines plus que tout qu'un mois, je pense. Mais la première capsule, il l'a partagée à 11 000 personnes. Après ça, on a approché le 20 000 en tout. La deuxième, 1 500. Même
Ah non, c'est
sujet,
ça.
la suite, 1 500. Puis là,
L'algorithme
ben,
de
on s'est dit.
Facebook, elle n'aide pas personne. Et il
Non.
s'arrange pour que tu sois obligé d'acheter une pub pour que là, il la
Ben,
fasse passer.
nous autres, on n'a pas les moyens d'en acheter, tu sais, Érable et Chalumeau, on n'a pas les moyens de s'acheter des pubs. Fait qu'on a mis sur notre site Internet aux gens de s'abonner à notre infolettre. Puis tu vois, on doit être rendu à 6 000 personnes qui sont abonnées à notre infolettre. Donc là, tu sais, on a une base de 6 000 personnes qui reçoivent la capsule, plus ceux qui la partagent après. Mais quand les gens la partagent sur Facebook, ça aide énormément, là. C'est ça le secret, c'est le partage, là.
OK. Ben oui. Puis là, vois-tu là, présentement, là, tu t'arranges, tu es en veux d'entailler à ta nouvelle sucrerie. Comment tu vois ça un peu ce printemps? As-tu une idée comment est-ce que ça va aller? On ne peut pas deviner ça, on va le savoir tout le temps après, là, mais.
Non, mais c'est drôle parce que ça. J'avais fait pendant 3 années en ligne une j'avais fait une capsule prédiction.
OK. Okay.
Cette année, je n'ai pas eu le temps de préparer une capsule prédiction. Okay. On a des choses qu'on connaît de l'érable à sucre, okay, qui nous permettent de savoir est-ce qu'on a les conditions pour avoir des très belles saisons ou des moins bonnes. Okay. On sait que quand à l'automne, il y a beaucoup de graines d'érable, ben, il y a une partie des réserves qui est dépensée, puis il y en a moins pour les sucres.
Ouais, t'as un peu, on parlait de ça à Journée acéricole à Victoriaville. Hein?
Bon, ça, on le sait. Ça, on sait ça, que ça, c'est connu depuis plusieurs années, que les années quand tu suis une année de graines, tu as moins de chance. Ben, c'est pas tout le temps vrai, mais tu as moins de chance. Okay?
OK.
Après ça, on sait que si l'année de croissance a été bonne, bien, il va y avoir plus de nouveaux bois. Puis s'il y a plus de nouveaux bois, il faut qu'il fabrique plus de sucre pour se protéger contre le froid. Mais s'il ne fait pas froid, il va moins se protéger contre le froid. Fait qu'il aura beau avoir poussé vite, mais s'il ne fait pas froid, il va moins se protéger. Mais il y a plus de bois quand même.
OK.
Ce qui est pire, c'est une petite année de croissance à cause d'une sécheresse ou quelque chose comme ça. Là, on part avec une prise, on va dire. On part en plus mauvaise condition. Après ça, le couvert de neige, on s'entend que ce n'est pas nécessaire pour la coulée.
Non,
ce qui est important pour la...
Il y a bien des places qui n'ont pas de neige puis ont des récoltes de sucre pareilles, là.
La seule affaire qu'on a besoin, c'est de l'eau dans le sol. S'il pleut, ça compense amplement. Mais s'il ne pleut pas, là, ça ne peut pas couler. Il faut que les racines soient dans l'eau pour avoir des coulées abondantes. Ça, fait, on a besoin de ça. Puis on a besoin du gel dégel.
Oui, parce que on était une couple d'années. Il me semble que le printemps, dans le temps des sucres, faisait beau, puis il fait jamais mauvais. Tu sais, ça prend du mauvais temps dans le temps des sucres.
Ben, un petit peu de pluie. De la pluie, c'est toujours un peu le bienvenu. Puis, tu sais, la neige n'est pas toujours pareille. Tu sais, tu as des neiges qui isolent, puis qu'au lieu de fondre, ils subliment, là. Ils s'en vont direct en vapeur, on dirait qu'ils ne laissent pas d'eau en fondant, là. Bon, mais à chaque année, ça, c'est bien différent. Mais l'affaire la plus importante, le sol n'est pas gelé cette année. Là, on sait que ça a été une super saison de croissance cette année. On sait qu'il n'y a pas eu énormément de graines dans plusieurs secteurs. Il y a juste quelques secteurs, je pense, qui ont eu une bonne année de graines. On sait après ça que le sol n'est pas gelé à nulle part. Donc, on a 3 facteurs positifs pour avoir une belle saison.
OK.
Quand le sol n'est pas gelé, ça veut dire que dès qu'il y a de l'eau dans le sol, ça part. Mais quand le sol est gelé, il faut que la croûte dégèle en premier. Il
faut que l'herbe se desserme, là.
Oui, ça c'est long. Mais sinon, tu n'as pas besoin de trop décerner, là. Fait que ça marche bien. Là. Fait que là, on a déjà 3 paramètres qui sont favorables. Là, on ne sait pas. En fait, moi je m'amuse souvent à dire il y a une année, El Niño, qu'on a eue, que l'hiver a commencé en février. Puis on a pelleté les mains cette année-là.
En 2008.
L'hiver a commencé tard et on a pelleté les mains.
Moi, je me souviens.
C'est jamais gagné à 100%. Là,
cette année-là, mon père avait été en vacances, lui, au début janvier. Puis il avait mouillé. Il avait mouillé en tabarouette, assez que la rivière Nicolette avait décollé, puis il y a eu un embarque en avant d'abattue.
Pas 2008, 2018.
Non, 2008.
Je pense que c'est ça. 2008.
2008. Ben oui. L'an 2008, là, le maire Labeaume voulait avoir 400 cm à Québec pour le 400e anniversaire.
Ben ouais.
C'est l'année où il y avait eu bien de la neige.
C'est là que tu t'en rappelles. Ben oui.
Fait que là, mon père, il revient de vacances, il m'appelle. Colvasse, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a mouillé, une affaire épouvantable. Il n'y avait plus de neige à partir du 5 janvier à peu près. Plus une graine de neige, avait tout fondu. Mais il a neigé, puis par après, mais il a neigé en maudit. Puis la grosse tempête du mois de mars, c'est-tu le 8 mars?
Ouais, c'est ça.
6, 7, 8 mars dans ce coin-là, là. La grosse tempête, tabarouette, là, c'était l'enfer. Les chars, il y avait des chars de prix dans le chemin.
Ce qui arrive, c'est que l'année El Niño, c'est que tu as beaucoup d'humidité captée, puis elle est chaude, cette humidité-là. Puis elle empêche la masse nordique de descendre, la masse froide du nord, ça l'empêche de descendre. Sauf que si elle se tasse juste un petit peu, tu as toutes les conditions pour la neige. Là.
Oh oui.
On peut retomber, nous autres, en hiver, n'importe quand. C'est pour ça que je dis, moi, je n'ai pas entaillé, parce que moi, je n'ai pas pris pour acquis que le printemps serait hâtif. Pas encore. J'ai rien qui. J'ai 3 jours de dégel la semaine prochaine, mais à la fin de la semaine, là, pour moi, ça ne m'indique pas que le printemps va commencer. Là. Pas encore. Là.
Ouais. Mais cette année-là, le 10 avril, le skidozer ne tapait encore les trails de skidou.
Ouais.
C'était l'enfer. Il y avait non. eu de la neige. 3 semaines de temps à pelleter des mains. Puis la saison, t'as de la marbre. Il n'y avait pas de rendement.
Ben, tu vois, en agriculture, moi, je m'amuse souvent à dire parce que, écoute, c'est quoi une saison normale? Moi, je dis au monde, je dis, une saison normale, c'est exceptionnel. Puis une saison exceptionnelle, c'est normal. Alors, c'est ça l'agriculture.
En agriculture, on ne sait pas quel genre de journée qu'on va avoir. On peut avoir une journée où que ça coule en fou, des journées qui font beau, finalement, ça coule plus, un peu moins bien. Tu sais, imagine si la production laitière était comme la production céréricole. Tu arrives le matin d'un table, les vaches ne donnent pas de lait, tu arrives le soir, ils donnent 4 fois plus de lait que d'habitude. Hey. Ça serait l'enfer.
C'est pas gérable. Et c'est surtout que, tu sais, nous autres, là, on sait qu'il y a un réchauffement climatique. Là. Okay? Moi, ce que je fais quand on dit qu'il y a un réchauffement climatique, je regarde ce qui se passe un peu plus au sud, parce que je me dis, dans le fond, c'est ça qui va nous arriver. Tu sais, il y a des endroits, là, aux États-Unis, ils font 6 livres l'entaille facile, là. Puis, ils font ça en 6 coulées. Des pics incroyables de coulées qu'on ne connaît pas. Là. Puis là on commence à entendre parler du monde. « Hey, là, cette année, j'ai eu ma coulée historique. Ben, » ouais, ben prépare-toi. C'est ça qui s'en vient. Là.
Hey, c'est là 2 ans, 3 ans, on avait pogné une journée. En tout cas, on a eu 1,8 gallons d'eau à l'entaille pendant une journée.
Ben, c'est ça.
Hey, ça là, coulait en tabarouette.
Non. Nos standards d'un gallon de réserve là, qu'on se disait, là, qu'on est lousse en masse, là. notre standard ne tient plus. Hein?
Non.
Il n'y a plus personne. Mettons que dans ceux qui ne sont pas de temps plein dans les rabillères, qui peuvent penser gérer ça avec un gallon aujourd'hui puis pas n'en échapper. Là,
moi, le site que j'ai acheté, j'ai à peu près 2750 dans ce coin-là. Puis j'avais acheté un premier bassin de 2600 gallons. Puis là, on ne l'a pas exploité la première année. Ça, c'est 2022. Fait qu'on ne l'avait pas exploité. Mais mon bassin était déjà acheté. Là, un moment donné, le printemps 2022, un moment donné, on pogne une grosse coulée. Là, je disais à mon père, tu sais, la chaîne pour mettre les bassins, là, on va la faire assez grande pour mettre un deuxième bassin dedans, je pense. Puis à un moment donné, dans la saison, il arrive, il me dit, tu sais, le deuxième bassin, je pense que tu vas l'acheter tout de suite. Fait que là, j'ai 2 gallons d'eau de réserve sur ce site-là. Si jamais on a une bad luck, on est capable de stocker. Parce que la grosse coulée d'un point 8 gallons d'eau à l'entaille, là, maintenant, j'ai dit à mon père, tu sais, que si on a un séparateur qui flanche, là, on est dans la merde, là.
Complètement.
On n'a pas échappé une goutte d'eau. Ah, imagine, Stéphane, cette fois-là, des tuyaux 1 pouce et quart qui rentrent par bouchon.
Ben oui.
Là, l'employé, mon père, il dit, calé, il n'y a plus de pression au bout des lignes. Mon père, occupe-toi pas des pressions. Fais rien que t'assurer qu'on n'échappe pas d'eau. C'est tout.
Non, mais de toute façon, tu n'en as pas besoin. Quand ça sort de l'arbre tout seul, tu n'as pas besoin de tirer.
Non. Mais là, hey, ça rentrait par bouchon. C'était fourré cette fois-là.
Oui, c'est ça. Fait que tu vois, nos designs de tout ce qu'on fait vont être influencés par le changement climatique. Là, puis... Ouais, moi, ça me dérange pas si on s'en va vers le meilleur. Je serais pas déçu.
Mais encore là, ça prend du gel puis du dégel. Ça ne changera pas.
Ça ne changera pas. Gel, dégel. Puis tu sais, c'est pas. Nous autres, là, on a fait une expérience quand on était à l'île d'Orléans, c'était la pandémie, puis on m'en est. On ne savait plus quoi faire. T'sais. Fait qu'on a décidé de faire une expérience qui était très grugetant. On a mis des thermomètres à l'intérieur des chalumeaux.
Ah ouais?
Ouais. On a mis des. Fait que là, on a percé on a rentré un thermocouple à l'intérieur de l'arbre en passant par le chalumeau. Puis là, on s'est dit, on va vérifier tout ce qu'on peut vérifier. Fait qu'on voulait savoir quelle température il faisait dans l'arbre. Ça nous permet de savoir est-ce que le vent influence la coulée, tout ça. Après ça, on voulait savoir est-ce qu'un chalumeau foncé versus un chalumeau pâle, c'est quoi la différence? Eh bien, on a découvert, écoute, il y a quelque chose qu'on ne soupçonnait pas, dans le fond. C'est que, premièrement, quand on dit gel, dégèle, là, on dit qu'il ne faut pas que ça gèle, souvent, on va dire plus froid que moins 7. Sinon, ça ne sert à rien. Mais c'est parce que ça commence à geler dans l'arbre à moins 7.
OK.
Jusqu'à temps qu'il fasse moins 7, la température à l'intérieur de l'arbre est au-dessus de zéro. Fait que le mécanisme d'absorption, il fonctionne toute la nuit si c'est moins 7. Mais si c'est moins 10, ça stoppe. Fait que là, ça ne monte plus dans l'arbre, ça ne sert à rien. La nuit est trop froide. Puis pareil pour la chaleur. Si c'est trop chaud, puis là, tu sais, pour côté 4 degrés, 7 degrés, c'est pas chaud. Hein? Mais s'il fait soleil, là, il peut faire 19 dans l'arbre.
Ouais, c'est ça. Le soleil est pas pareil, là.
Puis là, ben là, c'est là qu'on a compris que la couleur d'un chalumeau, ça ne sert absolument à rien parce qu'il fait toujours plus chaud dans l'arbre que sur le chalumeau.
OK.
Toujours.
Puis
Le matin, là,
le vent.
le matin, c'est l'arbre qui dégèle le chalumeau.
Ah ouais.
Puis, hein, c'est l'arbre qui dégèle le chalumeau. Puis aujourd'hui, là, je commence à comprendre des affaires dans le mécanisme de la coulée. Là. Puis l'arbre dégèle le chalumeau. Okay? Puis ça, c'est presque tout le temps. Et puis la sève se refroidit dans le 5-16 en descendant. Elle sort presque tout le temps plus chaud de l'arbre qu'elle rentre dans le Maine. Puis là, elle se
Ah ouais.
réchauffe dans le Maine. Ouais. Elle se réchauffe dans le Maine. Mais vraiment, là, les journées qui fait soleil, là, c'est très, très chaud dans l'arbre. Puis même du côté sud, là. Du côté sud, côté nord.
OK, autant d'un bord que de l'autre.
Ah, autant d'un bord que de l'autre, il y
Fait
a
que
une
ça,
différence.
ou ce que t'en, si t'entailles au nord, ça n'a pas d'influence que si t'entailles au sud, mettons.
Il n'y a pas une grosse différence de dégel, là. C'est
OK.
hallucinant. Ah oui, pour moi, là, je suis tombé sur le dos. Moi, j'étais convaincu que c'était bien long à dégeler au nord, mais pas du tout, pas du tout. L'arbre, la chaleur se distribue bien à l'intérieur.
Puis le vent, ça doit influencer, parce que
Ben,
moi...
le vent, c'est fou. Tu sais, on dit souvent des objets que le facteur vent n'est pas important. C'est vrai que le facteur vent, ça ne va pas refroidir un érable, mais ça va l'empêcher d'être chaud.
OK.
Parce que, admettons, je te donne l'exemple. Il fait 7 dehors, il fait 19 dans l'arbre. S'il commence à venter, il accumule plus de chaleur sur l'écorce, fait que la température baisse dans l'arbre.
Oui.
C'est instantané, là, ça prend quelques secondes. Tu sais, c'est fou, là, c'est rapide, rapide.
Parce que y a un site qu'on loue, on a un 2400 en taille, puis lui est entouré de champs, ce petit boisé-là. Puis elle est frileuse. À la minute qu'il y a un vent, on voit la production à chute, carrément.
Puis là, comment une érablière peut arrêter de couler pendant qu'elle est au-dessus de zéro? Parce que si on comprend le mécanisme de la coulée, là, le bout qu'on en sait, c'est que dans le fond, les gaz qui sont dans les branches, quand ça refroidit, ils se compriment. Ils se compriment plus vite que l'équilibrage des gaz qui vont être perméables à la branche. Okay? Fait que ça fait un appel d'eau. Mais là, imagine-toi, il fait 10 degrés. Il fait 10 dehors. Là, ça a réchauffé, les gaz ont pris de l'expansion. Tu tombes à 4, les gaz compriment. Il fait 4 degrés, mais ça ne coule plus. Là, il arrive un coup de vent. Les gaz ont commencé à comprimer, ça ne coule plus. Le vent s'en va, ça s'en met à couler. C'est ça, là. Les températures, là, cette année-là, qu'on a pris des températures, c'était compliqué parce que on passait d'un arbre à l'autre avec le thermomètre, en tout cas, puis on aurait aimé ça être plus riche, puis avoir des thermomètres avec tout qui rentre avec les data loggers à la maison. Mais là, on n'a pas ça. Fait qu'on se déplaçait d'un arbre à l'autre pour prendre la température, puis on y allait plusieurs fois par jour. Puis c'était vraiment le fun. C'était très instructif. Ça, c'est une belle expérience qu'on a faite là.
Puis as-tu d'autres expériences du genre que tu as faites chez vous ou dans le temps que tu étais au centre Acer?
Ah, écoute, ça finissait pas. Écoute, tout est à faire. Hein? Okay, ça finit pas. Nous autres, on teste tout le temps plein de choses. Tu sais, tantôt, j'ai commencé à te parler de l'entaillage. Bon, ça fait des années que tout le monde me dit, c'est quoi la meilleure mèche d'entaillage? Puis je dis, on ne sait pas. Je dis, il n'y a personne qui a regardé ça. Puis là, à un moment donné, à force d'être tanné de dire qu'il n'y a personne qui a regardé ça, bien, on a coupé des arbres. Puis on a coupé l'entaille en deux, puis on a regardé le bois, il était comment. Puis restez surpris.
OK.
Moi, je savais déjà que mon trou était plus rond quand je perçais à basse vitesse. Je savais ça, que j'avais plus de facilité à être étanche. Mais je ne savais pas si mon trou était beau en dedans, par exemple. Et ça, j'en
Ouais.
avais aucune idée. Mais moi, je prétendais que c'est mieux de ne pas avoir de bulles. Puis quand je perçais à haute vitesse, mon trou n'était jamais très beau. Fait que j'avais des bulles. Là, j'ai pris des ralentis. Premièrement, on me voit bouger quand j'étais à haute vitesse parce que ça fait brasser ma main. Je manque mon départ. Fait que moi, je ne suis pas capable de faire des trous parfaits à haute vitesse. Il faut que je perce à basse vitesse. Puis, quand je regarde l'intérieur du trou, à haute vitesse, c'est comme un peu scellé. Fait que moi, on ne voit pas les fibres de bois. Tandis que quand je t'abats, mais écoute, ça, c'est long de faire ça, là. Il faut que tu coupes l'arbre. Tu découpes les entailles une après l'autre. Tu les prends au microscope. Tu fais les photos micro, macro, puis tu étudies les photos. Nous autres, on comptait les trous, voir combien on envoie des trous, en tout cas. Bref, un petit protocole qu'on s'était bâti. Puis moi, ça m'a convaincu que moi, là, je perce à basse vitesse.
En
Puis je
première.
fais. Ah ouais, en première vitesse, puis je fais des vraiment plus beaux trous en première vitesse. Mais ça, moi, je disais, aller jusqu'à là, je disais toujours au monde, ben, il n'y a pas des tonnes d'études. Puis, moi, si j'étais vous autres, j'irais avec la vitesse que je suis confortable. Parce que l'important, c'est de faire un trou rond. Puis aujourd'hui, je vais dire, ben, l'important, puis je ne pense pas qu'il y a du monde qui soit capable de faire des trous ronds à haute vitesse, là. Tu sais, parce que le coup qui part, il est dur à arrêter. Il est vraiment difficile à arrêter. Mais ça se peut. Quelqu'un beaucoup plus fort que moi va peut-être être capable, mais il va être crispé parce qu'il va falloir qu'il tienne vraiment sa perceuse très fort pour que ça fonctionne. Mais à basse vitesse, c'est sûr que le bois est beaucoup plus beau. Puis l'autre affaire la plus importante, c'est que quand tu arrives au fond du trou, il faut que tu sortes au plus vite. Tu niaises pas là parce que les tours dans le vide
Va
font
glacer le trou.
sceller l'entaille.
Ça va
Ouais.
glacer le trou.
Ouais. Fait que là, tu rentres, tu sors. Tu taponnes pas tu ne taponnes pas cet endroit-là, tu sors le plus vite. Mais ça, c'est des petites choses qu'on fait, nous autres, là, pour répondre à des questions. C'est vraiment pour répondre aux questions du monde.
Puis surtout, quand tu es en deuxième, mettons, la rip, elle sort plus vite. Puis tu n'as pas le temps de la voir. Tu peux pogner du brun, mais tu n'as pas le temps vraiment de la voir, là.
Tu sais, tantôt, quand on disait un protocole intéressant que j'ai vu qui vient du Vermont, c'est de ramasser la rip pour regarder. Ils pesaient le bois brun puis le bois blanc. Puis ils ont remarqué qu'ils perdaient jusqu'à 50 % de coulée quand il y avait du bois brun.
Ouais, puis ça fait une fuite, bien souvent.
Mais c'était une belle façon de le compter. Hein.
Oui,
C'était
oui, oui.
un protocole vraiment original là, de le faire, ça. Ça, c'est un des beaux protocoles là, que j'ai vu là, qui sort de là-bas. Là, puis c'était vraiment intéressant là, de tout séparer au microscope, puis peser le bois brun versus le bois blanc, puis de regarder la coulée ensuite. Là. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
Good. T'as-tu d'autres choses à dire, Stéphane?
Écoute,
Ah,
je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on parle, mais je pense qu'on.
oh, ça fait au-dessus d'une heure et demie, là.
Ah ouais, OK, bon, je pense qu'on a fait pas mal le tour.
Oh,
Hein?
oui.
C'est une très belle aventure qu'on vit, moi et Edith, dans Érable et Chalumeau. Là. Vraiment, là, moi, si j'ai à dire quelque chose, c'est que les acériculteurs, c'est du monde extrêmement gentil. Puis c'est beau ce qu'ils font. Hein? Produire un sucre qui ne demande pas la déforestation, c'est extraordinaire. Fait que juste ça, c'est merveilleux.
Non, ben c'est ça. On a une belle richesse quand même ici, là, le Québec, avec le climat parfait, si on veut, pour l'érable à sucre. Dans tout cas, le nord-est de l'Amérique du Nord, là.
Ah ouais.
Puis Québec en occupe une bonne partie là-dedans. Fait que... Ah non, c'est tellement une belle production, puis c'est un produit qui est quand même unique, puis c'est ça qui est le fun. Mais je sais que Équipement Lapierre avait setupé une érablière en Russie. Mais là, après ça, c'est arrivé à la guerre, puis on n'a plus jamais rien vu qu'est-ce qui se passe là, mais sais-tu si c'est encore en opération, ça, ou...
Ben, ça l'était, là. Moi aussi, j'ai pas redemandé, mais c'est un produit, eux autres, les érables qu'ils ont, c'est moins bon.
Okay.
Moins bon que nous autres. Fait qu'on n'a pas à se stresser qu'ils en fassent beaucoup, là. Ils nous battront jamais sa saveur, là.
OK, bon.
Eux autres sont sur l'érable de Norvège, là, puis c'est pas super.
Là. OK. Bon, anyway, russe et qualité, on repassera, là.
Ouais, non, mais... non, mais c'est, oui, c'est vrai qu'il avait fait ça, puis c'était intéressant, puis c'est toujours des... À la fois, c'est toujours déchirant, tu sais, quand tu dis que tu vas vendre ailleurs, on va-tu se créer des compétiteurs, tu sais? Parce qu'il y a le Japon aussi qui a beaucoup d'érables. Hein. Beaucoup d'érables au Japon. Ils boivent la sève là-bas, mais ils ne font pas de sirop nécessairement. Il y a une ou deux cabanes là, qui font le sirop, là, mais de base, eux autres, ils boivent la sève.
OK. Ah ouais.
Oui. C'est culturel, eux autres, là, au printemps, de prendre la sève d'érable, mais pas le sirop.
Mais c'est-tu de l'érable à sucre ou c'est une autre sorte d'érable?
Non, c'est d'autres sortes d'érable. L'érable à sucre, on est comme privilégié, là, c'est à nous autres. Ça.
Okay.
Il y a quelques projets. Écoute, il y a un Français qui s'est équipé au Québec, okay, puis il fait du sirop d'arbre, lui, là-bas en France, puis il s'est planté des érables à sucre, puis il commence à être beau, là.
Ah oui?
Ouais. Mais il fait son sirop avec de la platane, avec toutes sortes d'affaires. C'est fou, là. Puis il nous écrit de temps en temps pour poser des questions. Puis c'est vraiment sympathique, là. Puis, mais oui, il se fait quelques autres sirops d'arbres sur la planète, mais pas à notre échelle à nous autres.
Puis il me semble que Lapierre ont déjà livré un champion en Haïti. Je me demande si c'est pas pour faire bouillir de la canne à sucre, je ne sais pas trop. Hein.
Mais il y avait de l'aloès aussi, là, du jus d'aloès, je pense.
Ah ouais?
Oui, il y a ça aussi qui a été fait, là. Mais il y a de la canne. Mais ça, c'est drôle. De façon régulière, il y a du monde qui me demande des conseils pour voir comment on le vend un évaporateur, parce que c'est pas tout à fait pareil. Hein, c'est pas les mêmes réactions de sucre. C'est pas nécessairement balancé à l'identique. Là. Fait que, oui, c'est intéressant, ça.
Ben, nous autres, c'est fait pour faire des saveurs, là. Fait que c'est pas... C'est conçu pour l'eau d'érable, là, carrément. Là.
Ouais. Ben, on dit que c'est fait pour les saveurs. C'est oui puis non, parce qu'en réalité, on sont conçus pour faire un sirop pâle. Là, on pourrait faire plus de saveurs. Là, on sait comment faire.
Oui, non, c'est ça.
mais il vaut moins cher. Fait qu'on le fait pas tout le temps. Là.
Good. Hey, Stéphane, un immense merci d'avoir accepté mon invitation. Parce que, dans le fond, on s'était rencontrés à la journée Impact à ses récoltes là, à Victoriaville au début du mois de janvier. Puis c'est là que je t'avais lancé une invitation, puis là, tu m'avais dit oui. Parce que la première fois que je te l'avais demandé, tu avais refusé, mais tu sais, je commençais, puis tu savais pas pantoute, tu sais, qu'est-ce que je faisais. Puis tu me disais que tu n'avais pas le temps, mais tu sais, de la manière que je les bâtissais, là, c'est pas ça qui occupe le plus de temps au monde, là. Surtout quand on n'a pas à se déplacer.
Mais si je te disais que de base, on reçoit par semaine là, des invitations pour souper, pour ci, pour ça, pour toutes sortes d'affaires, conférences, patati, patata. Là. On n'aurait pas assez de nos semaines. Fait que de base, on dit non. Puis si la personne en revient, on se dit bah, c'est sérieux.
Oui, mais l'invitation de vive voix, c'est pas pareil. Oui,
c'est pas pareil. Là, on a souvent tendance à négliger le facteur humain. Hein. C'est facile de dire non par écrit. Là, tu dis, il fait juste m'écrire, on va dire non.
Ouais. Mais en tout cas, un gros merci d'avoir accepté mon invitation.
Ça m'a fait plaisir, puis c'est un beau format, là, ce que tu fais, là.
Yes, merci beaucoup. Puis tout le monde, ben, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. Donc sur ce, merci beaucoup. À la prochaine.